Bonjour, cela fera bientôt 2 mois que les opposants à la réforme défilent dans la rue, tout autant de temps que les médias audiovisuels multiplient les plateaux pour analyser l'état de l'opinion, la situation du rapport de force politique, les chiffres de la mobilisation avec le lot d'invités, plus ou moins experts, pertinents et également plus ou moins informés. Au début de la présentation de la réforme de retraite, souvenez-vous, nous avions vu dans 2 de nos émissions comment les alternatives au projet du gouvernement avaient du mal à exister médiatiquement et de quelle manière aussi l'exécutif s'empêtrait dans une communication absolument catastrophique sur ce projet de réforme des retraites. Au bout de 2 mois de la mobilisation et d'opposition au projet, quid du traitement médiatique d'un texte qu'on ne présente plus comme hautement impopulaire? De quel côté se placent désormais les médias? Qui invite-t-il pour analyser la réforme et ses enjeux? Et surtout, pour en dire quoi? La persistance de l'opposition populaire à la réforme des retraites a-t-elle un impact sur le récit médiatique? Pour en parler avec nous aujourd'hui, 3 invités. Michaël Zemmour, bonjour.
Bonjour.
On ne vous présente presque plus, vous êtes économiste, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dominique Méda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales de l'Université de Paris-Dauphine. Merci à vous également d'être là. Et Mathieu Croissando, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et éditorialiste, entre autres à BFM TV, notamment pour la matinale en semaine. Voilà, la mobilisation s'installe, les grèves aussi, et le gouvernement dramatise, à outrance parfois. Ça a été le cas plusieurs jours précédant la mobilisation du 7 mars 2023, la preuve.
Ceux qui veulent tout bloquer dans la durée ne peuvent pas ignorer qu'il peut y avoir un impact sur notre économie au moment où nous sommes le pays le plus attractif de l'Union européenne, au moment où nous faisons reculer le chômage. Ne peuvent pas ignorer que tout bloquer dans la durée, ça aurait un impact sur les Français dans leur quotidien.
Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois.
Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Quand j'entends certains qui disent qu'ils veulent mettre l'économie à genoux, c'est les travailleurs qui vont mettre à genoux. Et surtout, c'est toujours ceux qui sont les plus en difficulté. Ceux qui trinquent, en général, c'est ceux qui triment.
Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination.
Je pense que quand on entend un leader syndical parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave et que ça n'est pas responsable. Et que les premiers qui seraient pénalisés si on met l'économie de notre pays à genoux, ce sont les plus modestes, les plus fragiles dans notre pays.
Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques.
Quand vous décidez de mettre l'économie à genoux, vous décidez aussi de mettre des humains à genoux, des salariés, des artisans, des PME, des TPE. Faites attention à votre vocabulaire. On ne peut pas considérer comme ça, par des slogans de plateau, de dire bah, on va mettre l'économie à genoux. Parce que derrière l'économie, il y a des drames humains, il y a des chefs d'entreprise qui ont des familles, il y a des chefs d'entreprise qui ont aussi des engagements.
Voilà, on l'a entendu, hein, les membres du gouvernement, la première ministre également en plateau de l'émission C'est à vous sur France 5, et puis aussi ce qu'on peut appeler des alliés du gouvernement, par exemple ce patron qui est également à la tête de l'UMI en Ile-de-France, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. C'est celui qui vient de s'exprimer à l'instant sur BFM TV. Une première question, Mathieu Croissando, après 2 mois de contestations aussi fortes, de manifestations, de sondages qui montrent que de toute façon, au bout de 2 mois, la réforme des retraites est aussi impopulaire. Entendre autant le gouvernement et ses alliés dans les médias verser dans ce drama-là, est-ce que c'est encore de l'information? Est-ce qu'on est encore au niveau de l'information?
Ah ben, c'est pas de l'information, c'est de la communication gouvernementale là, que vous avez montré. Celle d'Olivier Véran, en l'occurrence, ou de Gabriel Attal. Il y a toujours une rhétorique du conflit social dans tous les conflits sociaux qu'a connus la France, où généralement ça peut monter en pression. Et là, on voit que le gouvernement, C'est vrai, et confronté à un gros problème pour lui, c'est-à-dire que ses arguments ne portent plus, ni sur la nécessité de la réforme, ni sur la justice de la réforme, ni même sur le contenu de la réforme, qu'il a de plus en plus de mal à expliquer aux Français, parce que plus ça dure et plus on s'aperçoit que ben, c'est une problématique extrêmement complexe qui touche des cas individuels.
– Nous, on avait vu précédemment dans les émissions d'Arrêt sur image que même les arguments, au départ, étaient flous. On ne savait pas vraiment pour quelles raisons il voulait faire cette réforme. Enfin, c'était quand même assez flou.
– Je pense qu'on y reviendra, mais en tout cas, là-dessus, on est à un moment, une espèce d'acmé, c'était juste avant l'appel des syndicats à mettre la France à l'arrêt. Et donc le gouvernement a sorti des arguments sortis de nulle part. L'exemple d'Olivier Véran, qui était assez content d'ailleurs de sa prestation, puis qui a fini par la regretter par la suite, mais qui nous promettait l'apocalypse s'il y avait une journée de grève et de blocage en France. Donc ça veut dire que quand on n'a plus d'arguments rationnels qui portent, on est obligé de dramatiser, de dramatiser un point fou. C'est ce qu'a fait Olivier Véran. En face, vous avez aussi à mes yeux une erreur de communication de la part des syndicats, en tout cas pas des syndicats, mais de la part du syndicaliste, qui est un syndicaliste CGT de la branche chimie, je crois, ou énergie, on peut vérifier. C'est lui qui emploie l'expression France à genoux. C'était pas du tout l'expression économie à genoux, hein, pas France à genoux.
Oui,
c'était pas du tout l'expression de l'intersyndicale. Hein. L'intersyndicale, après en avoir beaucoup discuté entre eux, s'était mis d'accord sur cette formule qui avait été d'ailleurs inventée par Laurent Berger de la CFDT, qui est mettre la France à l'arrêt. Ils ne sont pas du tout sur cette ligne-là, et même Philippe Martinez n'a pas repris ces mots de mettre l'économie
à
genoux.
Mais en quoi c'est une erreur?
C'est une erreur de communication, parce qu'elle ne respecte pas, en tout cas, le mot d'ordre qui avait été fixé par l'intersyndicale. Donc, une intersyndicale, vous savez, il faut mettre d'accord des gens qui pensent pas forcément...
Non, mais c'est quoi la différence entre mettre la France à l'arrêt et mettre une économie à genoux?
Pas tout à fait la même chose. Mettre la France à l'arrêt, c'est montrer sa protestation dans une journée ou plusieurs, mais en tout cas, où on décide d'arrêter. Mettre l'économie à genoux, ça veut dire mettre l'économie par terre, c'est très différent. Ça veut dire faire que je sais pas quoi, la croissance baisse, que les entreprises ferment. C'est ça que les gens entendent quand ils entendent l'économie à genoux. C'est quelque chose, on est dans un vocabulaire martial, parce qu'on est, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est là où je dis qu'il y a une rhétorique du conflit social. C'est-à-dire que ça monte en pression, et parfois les expressions ne sont pas des expressions policées, courtoises, autour d'une table, mais c'est slogan contre slogan.
Alors ça, c'est du côté syndical, ce que vous dites, oui.
Et de la part du gouvernement.
Oui, alors côté gouvernement, justement, là, du coup, c'est la propagande classique, hein, de communication gouvernementale, mais est-ce que les médias, eux, n'en ont pas fait trop aussi?
Non, parce que je pense que le traitement qu'on a fait de l'intervention d'Olivier Véran, en l'occurrence, et pour le coup dans tous les médias, a été qu'il en faisait beaucoup trop, que c'était too much et que plus personne n'entend. Quand l'émetteur gouvernemental envoie un message de communication si délirant, mais plus personne ne le prend même au sérieux. Soit c'est interprété comme un signe de panique, soit c'est interprété comme de la propagande, parce que de deux choses l'une. Si Olivier Véran croyait à ce qu'il disait, c'est-à-dire que la France était au bord du précipice avec cette journée de France à l'arrêt, ça veut dire qu'il y a manifestement un énorme problème avec cette réforme des retraites et que c'est peut-être le temps justement de rediscuter avec les syndicats. Ça, c'était la première option. L'autre option, c'est qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'il racontait, qu'il en faisait des caisses. Et c'est à mon avis plutôt ce qu'il a fait et ce qu'il a fini par regretter d'ailleurs par la suite.
Non. Je rejoins tout à fait. Alors, moi, j'ai été sur le plateau de BFM le soir d'avant la grande journée. Et en effet, je me suis retrouvée entre Éric Woerth et...
On y reviendra sur cette séquence-là.
Oui. Non, mais il n'était question que de ça. Il n'était question que de la France à genoux. Et donc, on n'a pas pu parler d'autre chose.
Voilà, c'est la question que je voulais vous poser à vous deux. Comment on fait pour... porter une autre parole que celle de la séquence politicienne qui n'intéresse, pardon Mathieu Croissando, mais quasiment que les éditorialistes, les journalistes politiques. Comment on fait pour sortir de ça, pour parler du fond, ou parler aussi, pourquoi pas, de l'erreur gouvernementale, mais sortir de cette petite phrase-là, comment on fait quand on est sociologue, quand on est économiste?
Faut d'abord être invité, petit 1, et ensuite, quand on est invité, il faut qu'on vous donne la parole sur le sujet, ou alors, il faut rentrer en lutte et essayer de détourner les questions pour raconter sa propre histoire, et ça, c'est terriblement compliqué.
On n'y arrive pas.
C'est difficile. Michael y est arrivé.
D'abord, moi, quand on m'invite, je demande pour parler de quoi. Et effectivement, si c'est pour commenter des images en direct de manifestation, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Moi, je suis là pour parler de la réforme et de ses effets. Et donc, ça permet peut-être d'ajuster en amont. Et puis, ça a dû arriver une fois ou deux qu'on m'interpelle sur ces expressions-là. En tant qu'économiste, j'ai un mot ou deux à dire sur ce que c'est l'économie de la grève. En gros, c'est un bras de fer, c'est de la théorie des jeux, c'est un chantage en disant « ça va nous coûter beaucoup, ça va vous coûter à vous aussi ».
Et justement, en tant qu'économiste, ça méritait autant de temps d'antenne. Peut-être qu'il y avait une explication économique à effectivement marteler que mettre la France à l'arrêt, c'est un problème.
C'est pas mon sujet en économie. C'est-à-dire que je suis économiste, mais en plus, je suis pas économiste du conflit social ou de. Voilà. Et donc, les deux ou trois fois, on m'a posé la question. C'est ce que dit Dominique. J'ai répondu ça, d'une part. J'ai répondu aussi que quand vous regardez le modèle social français, en fait, il porte les traces des luttes sociales, victorieuses ou perdues. C'est-à-dire que le contrat première embauche n'a pas été passé, ça se voit dans les statistiques du droit du travail et dans les indicateurs de droit du travail. La réforme des retraites de 95 n'est pas passée, on le voit, mais par contre, celle de 2010, c'est passé, on le voit. Donc j'ai répondu à ces éléments-là. Et puis sinon, ce que disait Dominique aussi, c'est vrai, il y a des fois où on m'a posé la question et j'ai rigolé sur Olivier Véran et puis je suis repassé à mon sujet. Voilà comment on se défend, entre guillemets.
Encore faut-il être invité, et on y reviendra justement sur ce qui vous est arrivé, Dominique Méda, notamment sur BFM TV. Pourtant, malgré la dramatisation, eh bien, les manifestations du 7 mars se sont déroulées dans le calme, avec une forte mobilisation, 3,5 millions de manifestants revendiqués par les syndicats, 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur, ce qui n'a pas empêché BFM TV de faire un zoom en fin de manifestation à Paris, donc le 7 mars, sur des feux de poubelle. Regardez.
Il y a de nouveaux feux, visiblement de poubelles qui ont lieu, c'est une priorité en direct. Avenue de Choisy, où là on a une fin de manifestation sous tension, comme vous pouvez le constater, avec des incendies. Visiblement, c'est en train de déraper. On repart place d'Italie pour retrouver nos reporters, pour faire un point un peu plus précis sur cette dispersion qui finalement ne s'avère pas aussi simple que prévu.
Oui, effectivement, il restait visiblement quelques éléments perturbateurs sur cette fin de manifestation. Vous savez, les policiers les ont repoussés progressivement et assez tranquillement d'ailleurs en direction du sud de la place d'Italie, en direction d'Avenue de Choisy. Et tout au long de cette rue, l'Avenue de Choisy, il y avait les poubelles qui avaient été sorties. Eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui les ont allumées. Il y a 7-8 poubelles comme ça tout au long de cette avenue qui ont été brûlées. Vous voyez, les pompiers viennent d'arriver pour éteindre ces incendies de poubelles. Pompiers qui ont d'ailleurs changé de technique depuis les récentes manifestations. C'était un peu compliqué pour eux de progresser avec leur gros camion. Cette fois-ci, maintenant, ils se déplacent à moto, deux par deux, avec un extincteur. Et vous voyez, en quelques minutes, ils arrivent à éteindre ces incendies de poubelles qui, effectivement, jalonnent cette avenue de Choisy. Mais à part ces incidents-là, le reste de cette dispersion s'est passé assez tranquillement.
Voilà, et puis même journée de manifestation, donc le 7 mars, et même manière de faire un zoom en direct, en marge de la mobilisation, cette fois-ci, avec une voiture vraisemblablement propriété d'un médecin attaqué par des Black Blocs.
C'est une scène d'une grande violence qui suscite l'indignation. En marge de la manifestation, des individus masqués et encapuchés caillent à cette voiture garée depuis quelques minutes.
Il y a une séquence que je voulais vous montrer parce que je trouve qu'elle est extrêmement symbolique. Elle s'est déroulée il y a à peu près une heure et demie dans Paris. On va peut-être la voir avec une voiture blanche attaquée. Voilà, à coups de poinçon, à coups de panneaux routiers par des Black Blocs. Là pour le coup, c'est très clair.
Un SUV, parce que les SUV, c'est aussi, vous savez, le symbole du capitalisme, de la pollution, de la fin de la planète. Sauf que c'était celui d'un médecin qui était en intervention.
Et voilà, il brandit SOS médecin. C'était un médecin en intervention. Donc voilà, on en est réduit à ça. Et le médecin, sa voiture est fichue et il était en intervention.
Il était garé sur une livraison parce qu'il était en intervention.
Ça peut susciter que de la colère. Vous avez un médecin qui était sans doute en intervention chez des gens. Quand on appelle SOS médecin, c'est qu'on est en urgence médicale et vous avez des abrutis.
Et après, les street medics sont aidés à partir.
Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vu.
Rosine Bachot, ça vous fait réagir?
Oui, c'est complètement con.
Voilà, donc c'est bien CNews et BFM TV qui en parlent, en direct notamment pour CNews et puis un peu après pour BFM TV. On a vérifié du côté de France 2 et de TF1 dans les journaux télévisés, eh bien ces événements-là n'ont pas été rapportés. On entend le présentateur Mathieu Croissando, le présentateur Yves Calvi, parler pendant la diffusion de ces images de feux de poubelle, dire « fin de manifestation sous tension, visiblement c'est en train de déraper ». Et puis le reporter, qui lui est sur place, donc dire « à part ces incidents, le reste de cette dispersion s'est passé assez tranquillement ». Est-ce qu'il fallait en parler ? Quitte à décrédibiliser le mouvement, quitte à faire un zoom sur un événement précis, alors que, comme on l'a dit, la manifestation, et comme le disent d'ailleurs les reporters, la manifestation s'est plutôt bien
déroulée. Alors, deux choses. D'abord, ce sont deux chaînes infos. Donc c'est difficile de comparer avec les journaux de 20 heures de TF1 ou de France 2 qui durent, eux, une demi-heure. Une chaîne info, ça, évidemment, ça retransmet en direct les événements.
Les journaux télévisés des chaînes dont je parle, en général, sur la question de la réforme des retraites, ne font pas qu'un sujet. En font
bien
plusieurs.
Sûr, bien sûr,
non, mais je veux dire, un aspect sécuritaire, donc, un aspect
là,
social.
Vous montrez quelques minutes, je ne sais pas combien de temps ça a duré, sur une journée d'info consacrée aux manifestations contre les retraites. Ensuite, si on décale un peu la focale, ça fait 10 ans que la conflictualité sociale est marquée par souvent beaucoup de débordements dans les manifestations, qu'elles sont devenues beaucoup plus violentes, hein, depuis en gros les lois El Khomri. Parfois par le fait des manifestants eux-mêmes, parfois par le fait de Black Bloc qui s'infiltrent dans les manifestations, on l'a vu pendant tout le mouvement des Gilets jaunes. Et là, la grande surprise de ce mouvement social-là, c'est qu'il se passe dans le calme, dans l'ordre et plutôt sans débordement. Il se trouve que lors de la dernière journée de manifestation, au moment de la dispersion Place d'Italie, quand on en parle avec les syndicalistes ou les policiers, il y a eu un moment d'interrogation parce que ça a été un peu plus compliqué. Et même dans le déroulé de la manifestation, il y a une présence de Black Bloc, visiblement qui s'en sont pris à cette voiture et qu'on n'avait pas vu. Donc que les chaînes info retransmettent cette séquence-là, parce qu'on est tous marqués par ce qui s'est passé quand même depuis 10 ans, en disant est-ce qu'on est de nouveau de retour dans ce mode d'expression beaucoup plus radical, beaucoup plus violent, ça ne me paraît pas du tout infondé. Après, le reporter sur place de BFM TV, il dit ça se disperse dans le calme, il donne l'information principale aux téléspectateurs.
Et il contredit le présentateur.
Ça arrive, souvent le présentateur, il regarde sur les images qui sont sur l'écran pendant qu'il présente son journal, il dit « Oh là là, ça a l'air de chauffer », et il donne la parole, vous qui êtes sur place, est-ce que ça chauffe ?» Et le reporter fait son job en disant « Regardez, il y a des feux de poubelle, les pompiers
les éteignent comme ci, comme ça. » Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça m'interroge pas aussi sur la manière de couvrir le conflit social, les conflits sociaux par les chaînes d'infos, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment besoin de temporiser, d'attendre de savoir ce que les reporters rapportent du terrain pour ensuite en faire une conclusion? Parce que là, la conclusion, elle est faite avant même que, finalement, les choses se passent.
Non, elle n'est pas faite puisque c'est le reporter qui l'a fait.
Il
est sur place.
Fin de manifestation sous tension, visiblement, c'est en train de déraper. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas attendre?
C'est une façon de poser la question. Visiblement, c'est en train de déraper, ouais. Et il pose la question au reporter qui est sur place, qui lui conclut en disant non, ça s'est plutôt bien passé, la dispersion s'est faite dans le calme. C'est difficile pour une chaîne info de ne pas faire les choses en direct. Moi, je ne suis pas porte-parole de BFM TV, ni dirigeant de BFM TV.
Bien sûr, non, mais globalement,
pour travailler dans une chaîne info, je peux dire que on va prendre du recul, attendre de voir ce qui s'est passé et raconter, c'est un peu contradictoire avec l'objet d'une chaîne info qui est quand même de retransmettre l'actualité en direct. Alors, il faut le faire avec prudence, il faut le faire après vérification, et c'est ce qui est fait. On a des gens sur place qui font leur job, qui vérifient et qui disent aux présentateurs ce qui est passé. Après, je pense qu'on ne peut pas non plus résumer la couverture des manifestations.
Dit, hein.
Non, mais je le précise aussi, parce que comme on montre que cet extrait-là, il y a eu plein d'images des cortèges qui se passaient dans le calme. Je trouve que d'ailleurs, pour la première fois, dans le traitement des conflits sociaux, il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire qu'on parle davantage de la colère que de la galère, par exemple. C'est-à-dire que les JT, les chaînes info...
Alors, je m'inscris en faux. Hein,
on va y venir.
Pas forcément, ouais. Mais on a fait une émission qui était globalement consacrée aussi à ça. Ça a duré le début de la mobilisation. On nous a expliqué que ça allait être compliqué pour aller au travail, pour aller
bien
annuler l'info à l'école.
C'est le début de la mobilisation.
En termes de traitement médiatique, ça a été quand même beaucoup ça.
Une journée de France à l'arrêt, vous êtes obligé de traiter les deux. Les gens qui manifestent, pourquoi ils manifestent, ceux qui manifestent pas et ceux qui vont au boulot et qui sont un peu perturbés. Mais franchement, moi, pour travailler pour la matinale de BFM TV, je peux vous dire qu'on a eu plein de sujets sur comment les manifestants se préparent, pourquoi les syndicalistes y vont, quelle suite donner au mouvement. À chaque fois, dans ces journées-là, autant que de gens qui disaient comment on se débrouille. Et d'ailleurs, les gens auxquels on donnait la parole, qui se débrouillaient pour aller au boulot quand même, exprimaient souvent, parfois en tout cas, leur soutien aux manifestants, tout en ne pouvant pas y aller. Mais je trouve qu'on a plus analysé les raisons de la colère que mis en avant, comme d'habitude, la galère pour aller travailler.
Qu'est-ce qu'elles apportent, ces images-là, selon vous, au débat sur la réforme des retraites ?
Moi, j'ai envie de dire quelque chose d'assez personnel, finalement. Mais c'est vrai que c'est anxiogène. J'avais une vieille mère et un vieil oncle qui étaient l'un dans un EHPAD, l'autre dans sa maison, et qui regardaient toute la journée BFM TV. Et c'est vrai que ça leur donne une idée du monde absolument incroyable. Donc, ils pensaient à tout moment que la France était en feu, quoi, que c'était que
sur
dehors.
Sur les manifestations contre les retraites, là ?
Non.
En général.
C'est-à-dire, on a un tel flux et une telle imposition d'images quand même très, très forte, à flux continu.
Alors ça, c'est pour la réception du public. Mais vous, en tant qu'universitaire qui travaillez sur les questions sociales, vous sur le retravail et vous sur le financement de la protection sociale, qu'est-ce qu'elles apportent, ces images-là, au débat ?
Je ne sais pas, nous on préférerait évidemment qu'il y ait plus de temps laissé au débat, et c'est vrai que les images, souvent les images ça nous empêche de réfléchir hein, quand même. Donc voilà, moi je préférerais qu'il y ait des temps beaucoup plus longs consacrés à des débats et à des débats de fond. À mon avis, ce qu'on n'a pas toujours nécessairement, d'ailleurs, sur très peu de chaînes.
Vous, vous étiez présent sur le plateau au moment de la diffusion, alors des images de feux de poubelle, c'est ça?
Oui, c'est celle du plateau d'Yves Calvi qu'on voit. Moi, j'ai un souvenir de spectateur, le jour de la première manifestation où il y avait une sorte de dissonance, parce qu'on allume les chaînes info pour savoir si la manifestation est grosse.
C'est le réflexe que vous avez hein, en tant qu'universitaire d'allumer BFM
TV. En plus, j'étais invité juste après sur un plateau, donc j'allume pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à la journée. Et il y avait une dissonance, c'est-à-dire que les images étaient en boucle des images de sécurité, donc de ce genre-là. Et le commentaire, c'est ce que vous avez dit, c'était « la manifestation est calme, ça se passe très bien, l'ambiance est très bonne ». Comme ça, pendant une grosse demi-heure. C'est-à-dire que le discours était « la manifestation est nombreuse et réussie et calme », mais les images, c'était plutôt ces images-là. Et donc, ça faisait un petit peu bizarre.
Et comment on interprète ça, du coup ?
J'en sais rien, là, j'étais juste spectateur. On se dit qu'il y a une sorte d'habitude, de rituel dans la manifestation à partir d'une certaine heure, on s'attend à voir ces images et je pense que ça a été comme ça. Après, quand moi j'étais en plateau, effectivement, ça crée de la perturbation parce qu'on comprend bien l'intérêt de la priorité au direct. Quand l'article 7 est voté au Sénat, bah forcément, c'est normal qu'il y ait un décrochage. Quand il y a un commentaire sur des feux de poubelle, alors c'est interdit de brûler une poubelle, mais du point de vue des sciences sociales, moi ce que j'aimerais savoir, je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que les manifestations sur la réforme des retraites ne se passent pas de la même manière que les précédentes ? Et il y a plein d'hypothèses en sciences sociales. Ça pourrait être parce que le soutien est différent, ça peut être l'unité de l'intersyndicale. À Paris, on a changé de préfet aussi.
Absolument.
On peut s'interroger, est-ce qu'il y a des méthodes, des consignes qui ont changé ? Donc, s'il fallait traiter de ce sujet-là, moi, c'est ça que j'aimerais entendre. Finalement, une poubelle ou deux ou 12.
On l'a traité, ce sujet.
C'est possible.
Sur BFM TV, il y a eu, en tout cas, ce sujet a été traité sur pourquoi ça se passe mieux, et tant mieux. Hein, personne ne regrette que ça se passe mal. Bien au contraire.
Sur la dissonance, ça m'intéresse. Le commentaire qui est différent des images, c'est quoi ? C'est parce que de toute façon, les images, elles sont tellement spectaculaires que c'est ça qui va amener le téléspectateur, qui fait qu'on les propose alors même qu'elles soient en différenciation avec le commentaire ?
C'est pas juste une histoire d'amener le téléspectateur, c'est qu'on a des images sur là où on a l'impression que ça se passe, entre guillemets. Et encore une fois, on sort d'une période, d'une décennie de conflits sociaux qui ont été marqués par une vraie violence.
Les gilets jaunes,
ça a été une très grande violence, mais avant les manifestations contre les lois El Khomri aussi. Donc ça fait 10 ans qu'on a, j'allais dire dans la mémoire rétinienne, ces manifestations qui se passent mal. Donc qu'on ait une sorte de réflexe de voir si cette fois-ci ça se passe bien et du coup de montrer les images de quand il y a un départ de feu pour voir de quoi il s'agit, ça me paraît pas du tout inconcevable. Enfin, ça me paraît même normal. Par ailleurs, ce temps de l'information en direct, il peut aussi être complété par un temps de réflexion. Et je ne suis pas le porte-parole, mais je vais encore le dire, il y a eu des soirées thématiques de débats sur BFM, de débats entre des membres du gouvernement, des membres de l'opposition, des experts, avec des Français.
Il y en a quasiment tous les soirs.
Non, mais je vais vous dire, ce boulot-là, je ne le vois pas ailleurs. Je ne le vois pas sur les autres chaînes info, je ne le vois pas sur les chaînes publiques. C'est-à-dire que quand vous donnez...
Vous avez une émission comme c'est ce soir, par exemple, sur France 5, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas le travail.
Oui, non, mais je veux dire, en tout cas, consacrer en prime time 2 heures ou 3 heures de débat avec soit un responsable de l'opposition qui vient dire tout ce qu'il pense de la réforme des retraites, ça a été le cas notamment pour Jean-Luc Mélenchon, ou avec des ministres qui viennent expliquer ce qu'il y a dedans, confrontés à des Français qui leur posent des questions, ou des débats entre un ministre et un membre de la France Insoumise, c'était le cas, et du Rassemblement National, pour parler de cette réforme des retraites, je pense que c'est aussi un boulot de fond et qui permet aux téléspectateurs de se faire une idée qui dépasse les seules images d'une manifestation.
Bon, vous n'êtes pas représentant de BFM, mais vous faites bien le travail quand même. Non, mais on reviendra sur ces questions de temps long. C'est important parce que on y reviendra aussi avec ce que vous avez dénoncé, sur votre présence aussi sur un certain nombre d'émissions, notamment sur Yves Calvi. Peut-être une question autour de la cohérence aussi éditoriale, la question de la cohérence d'antenne qui se pose selon moi. D'un côté, donc, des chaînes d'info, on l'a vu, hein, notamment CNews et BFM, qui peut-être peuvent parfois se mobiliser contre la grève. Nous, nous l'avons vu au tout début de la mobilisation. C'était d'ailleurs notre chronique du plateau télé du 22 janvier 2023. Les chaînes d'info qui se mobilisent contre la grève, c'était le nom du papier, je vous invite à aller le lire. Le chapeau du papier disait ceci: pendant près d'une semaine avant le fameux jour J, ces chaînes d'info ont pourtant tout fait pour discréditer le mouvement en insistant sur les conséquences pour les usagers sans transport, les mamies sans médecin, les enfants sans école, les restaurateurs sans clients, sans oublier la violence et les black blocs, un rouleau compresseur en continu qui n'a pas eu l'effet escompté, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, écrivent nos chroniqueurs de Sherlock Holmes, qui cite le professeur agrégé en sciences de gestion, Olivier Babot, présenté d'ailleurs par BFM TV comme économiste. Je suis en colère parce que je crois que ce blocage, fondamentalement, c'est un suicide pour une France qui va déjà très mal. On le voit ici sur le plateau de BFM TV. On sort de plusieurs années de gilets jaunes, on sort d'une pandémie mondiale de 2 ans. On est face à une guerre face à la Russie dont on ne sait pas si elle va dégénérer. Fin de citation. Et dans le même temps, Mathieu Croissando, vous qui êtes éditorialiste sur BFM TV, vous êtes parfois plutôt critique sur le texte de la réforme ou en tout cas sur la manière du gouvernement à mener cette réforme. Regardez.
Les services estiment qu'entre 10 et 20 000 personnes franchiront le seuil des 1 200 euros grâce à la mesure portée par la réforme. Autrement dit, l'estimation du nombre de bénéficiaires a été divisée au moins par 2.
Eh, franchement, ça fait mauvais effet, non ?
Ah ben ça fait très mauvais effet, hein. D'abord parce que c'était une mesure phare, un argument de justice sociale, vous vous souvenez, pour vendre la réforme. On se souvient du nombre de ministres qui ont vanté cette retraite minimale à 1 200 euros en omettant parfois de préciser à qui elle bénéficierait vraiment. Tout ça, ça fait pchit, cet argument de justice sociale. Ensuite, ça traduit une autre chose, hein, que cette réforme, elle a été mal ficelée, peut-être bâclée, parce que les débats et les polémiques ont mis à jour tout un nombre de trous dans la raquette qui se traduisent par de vraies inégalités.
Mathieu Croissando, nouvelle tendance, donc blocage des ronds-points.
On est passé ce matin, en fait, du dialogue de sourds au bras de fer. Est-ce qu'il aurait pu en être autrement ? Ben, la vérité, c'est que le gouvernement n'a rien fait pour. Hein. Quand vous voulez négocier, vous gardez quelques atouts dans votre manche quand même, de quoi offrir une victoire même symbolique aux syndicats ou à certains syndicats pour faire baisser la mobilisation. Cette fois-ci, drôle de tactique, Elisabeth Borne a tout lâché dès le début. Elle a fait des concessions dès la présentation de sa réforme, en lâchant par exemple les 65 ans qui sont devenus 64 ans. Et surtout, elle ne l'a pas lâché aux syndicats, elle l'a lâché à qui ? Au LR, pour obtenir leur soutien. Et du coup, hélas pour elle, les Républicains se sont comportés comme, j'allais dire, des sales gamins dans une confiserie un soir d'Halloween. Ils ont demandé toujours plus de bonbons sous peine de jouer un mauvais tour au gouvernement. Et leur demande, ajoutée aux critiques de la gauche, a fait apparaître la réforme pour ce qu'elle est, brouillonne, confuse et profondément inégalitaire.
Bon, voilà, c'est clair. Mais alors, il y a quand même une question qui se pose en termes de cohérence éditoriale pour une chaîne comme BFM TV. Il y a d'un côté tous les experts qui peuvent arriver, qui peuvent avoir ce type de propos comme Olivier Babot, qui nous montre une situation cataclysmique, une grève qui peut poser tous les problèmes du monde. Et puis, un éditorialiste comme vous, qui est en plus sur une case plutôt regardée, on est sur la matinale de BFM TV. Ça pose quand même question.
Alors ça, c'est très drôle que vous posiez cette question.
C'est vrai ?
La cohérence éditoriale, moi, je trouve que c'est la force, pour le coup, d'avoir une diversité de points de vue. Mm-hmm. C'est ça qui fait la richesse d'une chaîne. On n'est pas... Moi, je vais vous dire, je travaille pour cette chaîne depuis 2 ans et demi, et j'y suis, et j'ai une immense liberté. Je le dis parce que c'est souvent un procès d'intention qu'on fait aux gens qui interviennent sur BFM. Ah, bien sûr, vous êtes à la solde de tel ou tel. Moi, j'ai une immense liberté. Je décide de mes thèmes d'édito le matin. Avec le rédacteur en chef, on en discute. Je n'ai jamais reçu de consignes en amont sur « fais ceci et pas cela ». Et je n'ai jamais reçu de remarques en aval, autres que journalistiques, sur « oh là là, sur ce que j'ai pu dire ».
Mais ce n'était pas ma question. Est-ce que vous vous retrouvez sur l'antenne ? C'est ça que je veux dire.
Mais bien sûr, parce que moi, ils sont venus me chercher, ils me connaissent. Et j'ai un regard critique sur cette réforme-là. Je peux avoir un regard très critique sur l'action gouvernementale.
Est-ce que vous avez un regard critique sur le traitement de BFM sur la réforme des retraites ?
Oui, mais alors encore une fois, je trouve que la chaîne a fait plutôt son boulot. Cette diversité de points de vue, elle permet aux téléspectateurs de se faire un avis. Si on était dans ce qu'on appelait autrefois le cercle de la raison, avec des arguments d'autorité en disant « mais enfin, tout le monde sait qu'il faut faire comme ci, comme ça », ce qu'on pouvait entendre il y a quelques années, ça donnerait une autre coloration. Mmh. Là, c'est une coloration où il y a des sensibilités différentes qui s'expriment, que ce soit par les chroniqueurs, que ce soit par les invités qui sont autour des plateaux. Il y a des experts, vous en avez montré certains, il y en a d'autres, il y a des syndicalistes. Ce matin encore, il y a Philippe Martinez qui était invité. Je me souviens qu'il y a quelques jours, c'était vous qui étiez invité chez Apolline de Malherbe.
Quitte à verser dans la caricature pour certains d'entre eux, je ne dis pas pour tous.
Mais en l'occurrence, ce qu'on a entendu, par exemple, on ne
exemple, de la part d'Olivier Babeau.
Mais on ne maîtrise pas l'expression des gens, ils ont le droit d'avoir un avis, et leur avis vaut autant que le mien. Mais la force de cette chaîne, c'est que je puisse donner le mien, pour moi, hein, et que je puisse le faire en toute liberté. Bon, et je trouve que c'est plutôt une richesse, plutôt que d'aller chercher une cohérence. Ce n'est pas une chaîne d'opinion, c'est une chaîne d'infos, et il y a différentes opinions qui y sont représentées.
Et ben c'est très clair. Parmi ces fameux experts, désormais partout dans les médias, et bien il y a vous également, Michaël Zemmour. Vous en faites partie, vous êtes devenu peut-être malgré vous une forme de bon client médiatique. Alors vous avez toujours répondu aux médias, hein, c'est pas nouveau, mais votre exposition médiatique d'ampleur a commencé avec votre participation comme invité à la matinale de France Inter. C'était le 7 février 2023 lorsque vous avez démonté façon puzzle la promesse du gouvernement d'une pension à 1200 euros minimum. Nous en avions consacré un papier ce jour-là. Notre journaliste d'Arrêt sur Image, Maurice Midena, écrivait « Retraite, le mensonge des 1200 euros et l'épiphanie matinalière » que je vous invite à aller lire si vous ne l'avez pas encore fait. Ça m'intéresse d'abord de savoir, Michaël Zemmour, comment vous avez vécu ce moment médiatique, puisque ça a été un moment médiatique sur cette évolution de la question du traitement médiatique de la réforme des retraites, où vous avez fait quasiment découvrir aux journalistes de France Inter qu'il y avait une supercherie autour de cette pension minimale de retraite à 1200 euros. Comment vous l'avez vécu, ça ?
J'étais content. Je suis arrivé effectivement en sachant de quoi je voulais parler. Avant de passer dans une émission comme ça, elle est préparée, c'est-à-dire qu'on a au téléphone une préparatrice d'émission qui déroule les questions possibles. Il y en a beaucoup trop par rapport à celles qui auront vraiment lieu. Donc elle déroule plein de questions, il y en avait plein sur le financement, est-ce que c'est nécessaire, la dette, tout ça. Et elle me demande, je pense, s'il y a d'autres sujets. Donc j'en expose deux ou trois parce que j'ai des sujets d'intérêt. Et il y avait celui-là en faisait partie. Et voilà. Et d'ailleurs, Léa Salamé, juste avant l'émission, passe dans le couloir et dit voilà à peu près de quoi on va parler. Je dis mais je voudrais qu'on arrive à cette question des 1200 euros, que ça passe pas à la trappe parce que ça vient plutôt à la fin de vos sujets.
D'accord.
Et donc, au bout d'un moment de l'interview, elle me passe la parole sur ce sujet-là. Parce que j'ai prévenu que je voulais en parler. Et donc, je suis plutôt content de pouvoir en parler. Il se trouve que l'autre économiste qui était là pour débattre aussi discute, mais fait preuve d'une honnêteté et dit « Ah bon, c'est pas comme ça ?» Elle me croit, en tout cas, elle n'est pas dans une fausse controverse avec des arguments d'autorité. Et donc, à la fin, je suis plutôt content d'avoir pu dire quelque chose qui, par ailleurs, et ça, c'est dans votre papier d'Arrêt sur Image, a été écrit quasiment depuis début janvier dans plein de médias écrits spécialisés.
Le 15 janvier, effectivement, Dan Israël, journaliste spécialisé économie et sociale à Mediapart, en parle. Il y a aussi les journalistes de Libération qui en font des papiers. Et c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes surpris de ça, puisqu'il y a ces papiers auparavant qui ont été faits par des confrères ?
Je suis surpris de l'effet que ça a eu et du retentissement. Je sais que la matinale, c'est un gros moment. Moi aussi, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je crois que j'en ai parlé le 10 janvier dans la matinale de Guillaume Erner, déjà. On me disait, mais alors, 1200 euros pour tous, ça va resserrer vachement les écarts. Je lui dis, non, c'est pas vraiment ça. Voilà.
Donc la matinale de France Culture.
Voilà. Peut-être qu'en allant à France Inter, j'avais d'autant plus simplifié le message pour bien qu'on comprenne, en étant de moins en moins technique au fur et à mesure, parce que je me rendais bien compte à la fois qu'il y avait des papiers d'analyse et qu'en même temps, cet élément de langage, minimum garantie à 1100 euros, on le retrouve depuis la campagne législative. En fait, c'était dans les tracts. Moi, j'avais été interpellé par le tract de ma députée. J'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas ça, en fait, votre programme. Et donc, je voyais bien qu'il y avait un décalage entre le grand public et la presse pas spécialisée, qui avait toujours ça en tête, et puis les gens qui avaient bien compris. Et donc, voilà.
Et comment on se prépare, justement, à tenter de faire exister quelque chose qui existait déjà en tant qu'universitaire, chercheur, qui n'est pas habitué à prendre la parole médiatique tous les jours ?
Vous êtes préparé ? Oui, on s'entraîne.
Comment ?
On s'entraîne.
Vous vous entraînez ?
Là, oui. C'est-à-dire que je savais, moi, j'ai 3 ou 4 points dont je voulais parler. C'est le point que j'aborde souvent. Donc, les personnes qui sont au chômage avant la retraite, les minima de pension, les effets, notamment sur les femmes, etc. Et la parole ordinaire, comme je suis en train de faire d'ailleurs, quand vous n'êtes pas préparé, vous êtes très long, vous êtes trop complexe. Avant d'arriver au point, c'est très long. Et donc, on peut s'entraîner à répondre simplement aux questions pour être compris de tout le monde. Mais il y a une difficulté quand on est universitaire.
Mais comment vous vous entraînez ? Pardonnez-moi, mais j'ai envie de savoir, c'est quoi le... comment vous vous entraînez ?
Je demande à un copain, sur cette question, je prévois de dire ça, il me dit, non, c'est trop long, ça va pas.
Là, tu m'ennuies, bah, arrête.
C'est souvent un bon entraînement.
Ouais. Ah, et je recommence.
Comme quand on se prépare un concours, d'ailleurs.
Oui, avec ce... Bien sûr. Mais avec... une double difficulté quand on est universitaire, c'est que d'abord, le temps passe très vite, et donc il faut être capable de dire des choses en très peu de temps, mais en même temps, comme on est universitaire, on a un devoir d'être précis et de ne pas se payer de mots. Et on a dans la tête, en gros, les collègues, avec l'idée que si on va trop vite et qu'on va dans le raccourci, on va se moquer de nous ou on n'aura pas fait notre boulot. Mmh. Et donc c'est là où c'est pas facile, et d'ailleurs on apprend et puis on peut se tromper, c'est de concilier le fait de parler à tout le monde et en même temps de ne pas raconter des choses trop simplifiées et donc fausses.
Et c'est ce que vous pensez avoir fait ? En tout cas, en termes d'accueil de la part de vos collègues, par exemple, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ?
En ce moment, j'ai des retours plutôt positifs de mes collègues sur mes interventions universitaires, et j'avoue que ça compte beaucoup. Pas qu'ils soient tous d'accord avec tout ce que je dis, mais qu'ils trouvent que c'est sérieux, que c'est méthodique, et que je ne me paye pas de mots. Voilà.
En tout cas, c'est ce qui a amené un certain nombre de médias à revenir sur cette fausse promesse d'une retraite à 1 200 € pour tous, comme France Info et BFM, quelques jours après votre passage sur France Inter. Regardez.
On avait beaucoup entendu et retenu 1 200 € comme pension minimum pour une carrière complète au SMIC. Manifestement, ce n'est pas le cas.
Quelqu'un qui a cotisé une carrière complète au SMIC, il pourra percevoir une pension revalorisée minimale à 1 200 €. Quelqu'un qui a cotisé 30 ans et pas 43 ans, il aura une revalorisation
de plusieurs dizaines d'euros. On avait entendu, et vous-même, vous disiez, c'est 2 millions de personnes concernées.
1,8 million.
Alors ce ne sont pas 1,8 million de personnes.
1,8 million de retraités auront une revalorisation de leur retraite minimale qui tient compte du nombre d'années travaillées et du salaire.
Il manque le chiffre magique de 1 200 €. Olivier, je vous cite vous-même. Vous étiez invité le 11 janvier, ici à cette place-là. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois. Vous venez dire le contraire à l'instant.
Je vous dis que c'est vraiment pour une carrière complète au niveau du SMIC et que je pense l'avoir dit un nombre incalculable de fois.
Arrêtons-nous sur la retraite minimum. Non, votre projet de loi ne prévoit pas de pension minimale à 1 200 € comme ça a pu être dit. Vous avez dû entendre l'économiste Michaël Zemmour qui l'a démontré parfaitement sur France Inter. Pourquoi ne pas juste avoir dit on va revaloriser certaines petites pensions ? Pourquoi avoir donné ce mirage d'une retraite à 1 200 € pour tout le monde ?
C'est la fameuse extension dont je parlais tout à l'heure et qui permet effectivement à quelqu'un qui a une carrière complète au niveau du SMIC d'avoir 85% du SMIC net, c'est-à-dire en gros 1 200 €.
Ça c'est faux parce que ceux qui ont une carrière complète à temps partiel,
ça veut dire ça fait 1 200 €.
C'est faux. Ceux qui ont une carrière complète à temps partiel ne sont pas concernés.
Non mais attendez, parce que dans ce débat, on voit bien ce qui se passe.
On voit bien ce qui se passe.
On voit bien ce qui se passe.
Parce qu'on parle pas de 1 800 000 personnes.
Nos oppositions essayent d'entretenir.
C'est dommage de pas répondre.
Mais j'arrête pas de répondre.
Non, mais quel est le vrai chiffre ? Quel est le nombre de Français concernés par la retraite à 1 200 €? Pourquoi vous ne le donnez pas ? Parce qu'il est très bas.
Mais parce que ça nécessite des calculs qui sont des calculs.
Vous pouvez les faire.
Voilà, ça nécessite des calculs. Vous aussi, vous en avez parlé dans un de vos éditos, Mathieu Croissandeau, assez tard d'ailleurs, puisqu'il arrive le 10 février 2023, votre édito, où vous parlez d'ambiguïté du gouvernement. Quoi, vous dites merci à Michaël Zemmour d'avoir fait le travail des journalistes, finalement ?
Alors d'abord, c'est merci à Michaël Zemmour, bien sûr. c'est un travail, quelque chose, une matière très complexe, les retraites, parce que vous avez des principes d'ordre général et ensuite que des cas d'espèce, parce que chacun a un parcours individuel, un parcours professionnel qui fait que c'est compliqué. Je vous donne un exemple même sur ces 1 200 €. Quand la proposition a été faite de l'étendre aux retraités actuels, ils se sont arrachés les cheveux à la CNAV, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, parce que comment reconstituer les parcours professionnels et le niveau de salaire des retraités actuels, c'est quelque chose de très compliqué.
Donc, qui acquiesce. Donc.
Voilà, quand on a l'expertise, nous on est journaliste, on n'est pas des experts de chaque matière, donc on se renseigne auprès des gens qui peuvent nous informer, et Michaël Zemmour a été à la fois un lanceur d'alerte et un formidable pédagogue de cette affaire des 1 200 €. Le gouvernement a joué sur cette ambiguïté depuis le début. Alors, soit en affirmant des choses fausses, telles que votre émission vient de le souligner à propos, en repassant l'extrait de France Info de Olivier Véran, soit en disant oui, c'est devenu un slogan les 1 200 €, et tout le monde a compris benoîtement que c'était sinon pour tous ou presque. Quand on se souvient même des Républicains qui sont sortis de Matignon où ils venaient de toper avec Elisabeth Borne, ça devait être au lendemain de la présentation de la réforme. À la mi-janvier, eux disaient, voilà, on les a, ces 1 200 € pour tous les retraités actuels aussi, et non pas seulement les retraités futurs. Et du coup, c'est vrai que se plonger sur les mécanismes fins de quel effet, la société entière, j'ai envie de dire, pas que les journalistes, ont besoin d'expertise.
Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a le gouvernement qui est ambigu, qui joue évidemment volontairement sur cette ambiguïté, mais c'est ce qu'on disait, et ça m'intéresse d'avoir votre avis, les journalistes qui ont fait ce travail, nos confrères, pourquoi ne pas avoir cité tout simplement les confrères de Mediapart, de Libération et d'autres qui ont
bien
fait
sûr,
ce travail.
Bien sûr, certains. Alors, je pense que pour le coup,
dès le 15 janvier, hein.
L'onction académique, c'est-à-dire quand on a un professeur qui le dit, c'est plus fort que quand un journaliste le dit. Ça vaut pour toutes les matières, il y a une espèce de respect pour l'académisme en France, et ça paraît plus fort.
Et pourtant, après, on parle de journalistes spécialisés.
Bien sûr, mais après, il y a des journalistes spécialisés qui font un très bon boulot et qui ont choisi de pointer. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Moi, je choisis mes éditos tous les matins. Je pense qu'avant, j'ai dû parler d'autres thèmes de la réforme des retraites et pas celui-là en particulier.
Mais est-ce que ça interroge sur nos propres pratiques, je veux dire?
Bien sûr, bien sûr. En tout cas, je pense que ça interroge. Et je trouve que ce conflit le montre sur le fait qu'on n'avale plus la propagande, entre guillemets, comme vous disiez tout à l'heure, ou en tout cas la communication gouvernementale.
C'est pas forcément négatif, comme la propagande.
Comme on le faisait il y a encore 10 ans. Moi, j'ai couvert la réforme des retraites de Fillon en 2003, ben, je peux vous dire qu'il y avait peu de place au débat parce que les arguments d'autorité dont je parlais tout à l'heure, mais enfin, mon bon monsieur, vous savez que ça se passe comme ça partout en Europe, mais enfin, mon bon monsieur, vous savez qu'il n'y a pas d'autre choix, sinon on met l'économie en faillite, mais enfin, mon bon monsieur, ça, ces arguments d'autorité ne tiennent plus grâce au boulot des spécialistes. Ce cercle de la raison, il a été brisé.
Mais c'est absolument terrible de se dire que, en fait, seulement aujourd'hui, nous, journalistes, ou les journalistes, réussissent à casser une communication gouvernementale. Enfin, c'est un aveu d'échec qui est quand même...
Ça n'est pas ce que je dis. Je dis que longtemps, et même au niveau des... Chez les experts eux-mêmes, la parole était davantage donnée aux experts qui représentaient la parole unique, enfin la pensée unique, qu'on appelait les alters. Hein. C'est ceux qui pensaient différemment. Aujourd'hui, les alters sont devenus mainstream. Vous regardez ce que pensent les...
Alors, non, attendez. Ça, c'est intéressant.
Vous regardez dans ce que...
Dans la
perception qu'on a de cette réforme des retraites, eh ben, c'est pas la perception gouvernementale.
Laissez-moi rebondir sur ce que vous dites. Vous êtes venu mainstream, Michaël Zemmour. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Dans l'opinion, on vous entend plus qu'on entend le gouvernement.
Oui, je ne sais pas, mais on peut reprendre deux choses. Bon, oui. D'abord, moi j'ai eu des témoignages de plusieurs grandes rédactions qui disent, nous on a fait des papiers, les services spécialisés sur les 1200 euros il y a un bout de temps, mais en fait les JT, les généralistes, les ont pas vus et pas repris.
Ne reprennent pas.
Et donc au sein même des rédactions, il peut y avoir... la deuxième chose que j'ai remarqué, et ça, il n'y a pas que sur les retraites, hein, la réforme de l'assurance chômage est exemplaire pour ça, mais c'est vrai sur toutes les réformes sociales que moi je suis, le matériel qui est donné à la presse, y compris la presse spécialisée, c'est le dossier de presse du gouvernement. En général, on reçoit le dossier de presse avant les textes de loi, bien avant, et comme il faut faire le JT tout de suite, on fait le JT sur le dossier de presse, et donc j'ai eu des témoignages de journalistes qui disent bah, « Moi, j'étais très énervé parce que j'ai été demandé, alors 1200 euros pour tous, vous en pensez quoi ?» Parce que c'est fait comme ça. Mmh. Et donc, moi, j'ai pris l'habitude, mais je ne suis pas le seul, les journalistes spécialisés font ça, et les universitaires spécialisés, on en discute en temps réel. On reçoit le dossier de presse, et à partir de là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le dossier de presse et faire du décryptage. Mmh. Donc ça, c'est pour pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Il y a vraiment, à mon avis, s'il y a une leçon à tirer, c'est ne pas prendre le dossier de presse pour argent comptant. Parce que, et c'est quoi la différence avec la réforme des retraites, avec les autres réformes? Souvent, les journalistes, ça marche de prendre le dossier de presse pour argent comptant, soit parce qu'il est que légèrement approximatif, mais approximatif quand même. Là, les approximations étaient très grandes, notamment sur les 1200 euros, donc le gouvernement s'expose. La deuxième raison, c'est qu'il y a un mouvement social et qu'il y a du temps. C'est-à-dire que si le débat avait duré 24 heures, comme sur la réforme de l'assurance chômage, pas 24 heures, mais était très court, on n'aurait pas eu le temps. Là, il y a un mouvement social énorme, les gens s'y intéressent, prennent du temps, il y a des papiers, on a le temps de répéter. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'émissions, j'ai dit oui à presque tout ce qu'on m'a proposé. Et donc, là, ça crée le temps pour dévoiler les approximations du dossier de presse, etc.
Ça, c'est intéressant en termes de bonnes pratiques, mais... À vous entendre, Mathieu Croissando, on aurait l'impression qu'aujourd'hui, les économistes comme Michaël Zemmour, qui sont plutôt là à être critiques sur, là en l'occurrence, la réforme des retraites, seraient majoritaires dans les...
Je vais reprendre ce que j'ai pour qu'on comprenne bien. C'est pas ce que j'ai dit. Quand je dis mainstream, c'est-à-dire que quand vous prenez toutes les enquêtes d'opinion sur la réforme des retraites, les Français la jugent plutôt injuste, pas nécessaire et puis inefficace.
Inefficace.
Ça... Ben, ce n'est pas le discours du gouvernement. C'est plutôt le discours qui est porté par... Alors, ce n'est pas juste un point de vue, c'est le discours qui est porté et étayé par les experts. Et donc, je veux dire que quand 2/3 des Français pensent ça, je pense que le discours critique sur la réforme des retraites est devenu mainstream dans l'opinion.
C'est ce que je veux dire. Ça, j'entends.
Je ne pense pas que les experts soient devenus forcément...
Mais est-ce que ça vous amène, par exemple, vous, Dominique Béda, à avoir votre téléphone qui sonne beaucoup plus aujourd'hui pour venir sur les plateaux télé et parler des questions sociales?
Non, parce que je ne suis pas une spécialiste des retraites.
Non, mais des questions sociales, j'entends, en général, et notamment du travail.
Non, mais je pense que Michael est une exception. C'est-à-dire, il y a très peu de gens dans le monde universitaire qui connaissent très bien les retraites. C'est hyper compliqué. Et Michael, on l'avait bien vu déjà en 2019, lors de la précédente proposition de réforme, mais c'est un des seuls, Michael, qui comprennent vraiment, au fond, les sujets. Donc, non, mais... Voilà, il y a peu de gens. Après, moi, je ne suis pas sûre du tout, en effet, qu'on ait sur les plateaux les académiques hétérodoxes et qu'ils soient plus nombreux que d'habitude. Moi, je n'ai pas l'impression.
Je n'ai pas dit qu'ils étaient plus représentés sur les plateaux, j'ai dit qu'ils ont gagné la bataille du récit dans l'opinion.
Et en tout cas, depuis cette séquence médiatique, en tout cas, c'est vrai que Michaël Zemmour, vous êtes... quasiment invité tous les jours sur les plateaux, ou presque. Regardez par exemple ce résumé.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour Michaël Zemmour.
Bonjour. Nous ont rejoint Michaël Zemmour, qui est maître de conférence en économie à l'Université Paris 1. Vous êtes par ailleurs chercheur associé à Sciences Po.
Michaël Zemmour, bonsoir. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Michaël Zemmour, Anne-Sophie Alsif, bonjour.
Bonsoir Elie Cohen.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Et bonsoir Michaël Zemmour, bienvenue à tous les deux.
Jean-Marc Daniel et Michaël Zemmour sont dans Célèbre d'eau.
Il est presque 22h50, dans une minute, dans une seconde avec nous. Je le disais, l'économiste qui fait trembler le gouvernement. On verra ce qu'il pense de cette dénomination-là. Michaël Zemmour, critique documentée de la réforme des retraites.
Oui, vous en donnez un badge à BFM TV ou pas encore?
Non, mais par contre, ils me reconnaissent à l'entrée.
Il y en a qu'on voit peu.
Quand on y pense, j'y repensais en voyant ça et je réfléchissais à ce qui a changé depuis il y a 10 ans. Ils sont où les patrons? Vous le voyez, Geoffroy Roux-de-Bézieux défendre la réforme? Ils sont où, les Alain Minc, tous ceux qu'on entendait d'habitude, il y a une dizaine d'années, sur les ondes? C'est eux qui étaient invités pour porter les réformes gouvernementales. Ils vont plus. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est davantage quand même des esprits plus critiques pour démonter.
C'est intéressant ce que vous dites avant de prolonger avec vous. C'est quoi? C'est parce qu'on ne les invite pas? Parce que justement, aujourd'hui, on a envie d'entendre plutôt ça? Ou c'est parce qu'ils n'osent pas, puisque la réforme est impopulaire?
Alors, je pense que pour le patronat, c'est tactique. Et c'est qu'ils n'ont pas envie de jeter de l'huile sur le feu, à mon avis, qu'on dise c'est la réforme des patrons, enfin voilà, et puis je pense qu'ils n'ont pas envie de se mouiller là-dessus. C'était d'ailleurs pas une priorité affichée par Geoffroy de Roux-de-Bézieux de mémoire à la rentrée dernière. Il disait que les retraites, c'était pas si urgent, qu'il valait mieux faire l'assurance chômage. Et puis pour les autres, je pense que oui, c'est plus difficile pour eux, parce que ce discours-là ne passe plus. Le discours sur « il n'y a pas le choix », le discours sur « on ne peut pas faire autrement », plus personne ne peut l'entendre aujourd'hui.
Alors, c'est vrai que ce qui frappe Michaël Zemmour, c'est qu'on a regardé tous vos passages télé, c'est tous les jours, parfois même plusieurs jours successifs sur la même chaîne, là en l'occurrence BFM TV. Vous avez fait Apolline de Malherbe, le face-à-face en matinale, Yves Calvi le soir, Maxime Switek le soir en fin de soirée, en deuxième partie de soirée. Vous êtes même, par exemple, dans le face-à-face, c'est quand même l'émission où, en général, c'est plutôt des hommes politiques qui sont invités. Là, vous êtes le seul face à la journaliste Apolline de Malherbe. Qu'est-ce qui vous amène à accepter toutes ces invitations?
C'est un parti pris, mais... Dominique Méda a raison. En fait, c'est l'inverse. Moi, ça fait très longtemps que j'accepte énormément l'invitation sur les sujets que je connais. Et uniquement sur ceci, par exemple BFM Business, quand j'interviens parfois sur le plateau de Nicolas Dose, mais quand c'est pas sur mes sujets, c'est le prix de l'énergie, je lui dis non, parce que je vais pas juste lire le journal et répéter.
Et il le fait, parfois on vous invite pour ça, pour ces sujets-là?
Alors j'ai reçu hier un SMS pour parler des marques qui ne rapportent plus, je leur dis bah non, c'est pas BFM, une autre chaîne.
C'était quelle chaîne?
C'est une autre chaîne, France 2.
D'accord. Ah oui, le service public vous invite pour parler des marques qui rapportent.
Je pense que c'est la personne qui cherchait un économiste qui a dit, tiens, voilà. Bon. En tout cas, je lui ai dit, c'était pas mon sujet. Bref. Donc, moi, j'ai toujours répondu aux journalistes sur les sujets que je connaissais. C'est un parti pris parce que je pense qu'on a des choses à apporter au débat et que ça fait partie du rôle des universitaires. La différence, c'est qu'en ce moment, il y a un mouvement important, qu'il faut aussi renouveler le récit, etc. Et ça amène à ce que je sois invité dans des endroits où il y a une plus grande audience.
Alors ça, j'entends ce que vous gagnez, mais qu'est-ce que vous y perdez à y aller?
D'abord, ça prend beaucoup de temps. Donc, je peux le faire parce que je suis soutenu en ça, d'abord dans ma vie privée, parce qu'il faut s'organiser. C'est pas rien, il faut habiter à Paris, il ne faut pas être loin. Ça sélectionne déjà.
Tout à fait.
J'ai aussi des collègues qui me permettent de le faire, parce qu'à l'université, on a du travail complexe. Dominique Méda dirige un laboratoire, donc j'ai des collègues qui, je fais toujours mes cours, etc., mais qui ne vont pas me regarder de travers parce que j'ai raté une réunion. Ouais. Donc voilà. Et puis après, ça coûte parce que c'est une forme d'exposition. Si vous êtes à une heure de grande écoute, il ne faut pas raconter n'importe quoi, sinon on s'en rappellera longtemps. Et nous, chez les universitaires, le jugement des pairs est important. Donc ça coûte ça,
et
ça coûte cette exposition-là. Et alors en ce moment, il y a un mouvement social fort et très critique, mais quand on a une parole critique à froid, ça expose aussi, parce que on sort un petit peu du ronronnement de la routine.
Et vous parliez tout à l'heure de cette volonté de rester sur vos sujets. Je pense par exemple à une émission à laquelle vous avez participé, c'était C'est ce soir, donc l'émission de débat sur la chaîne France 5 du service public. Alors on est en février 2023, il y a quelques jours, et alors vous êtes interrogé sur ces petites villes contre le gouvernement, sur des questions liées à la géographie du territoire français, sur la question de la contestation populaire en fonction de là où on habite. Est-ce qu'on n'est pas la limite, justement, de votre expertise à vous, en tant qu'universitaire, qui travaillez sur les questions de financement de protection sociale ?
Alors, si exactement, donc on me donne le sujet, et je me dis, est-ce que moi, compte tenu de mes connaissances, j'ai quelque chose à dire ? Et si vous regardez l'émission, dans l'émission, je propose une hypothèse à la géographe qui est en plateau, parce que c'est elle la géographe,
oui,
en disant, qu'est-ce qui peut caractériser économiquement les petites villes qui se mobilisent ? Et je propose des réponses. C'est plutôt des endroits où les personnes sont plus âgées, oui, où les emplois ne sont pas les mêmes, sont moins dans le tertiaire, et où donc les personnes particulièrement touchées par la réforme. Voilà. Et donc, j'essaye de voir par rapport au sujet qu'on me propose et qui est proposé par le média, est-ce que j'ai des choses à dire sans être, entre guillemets, en roue libre. Et si ce n'est pas le cas, j'essaye de ne pas venir. Donc, par exemple, je ne suis pas spécialiste du travail, donc j'ai deux ou trois éléments à dire sur le travail, mais il y a beaucoup d'émissions sur le travail. Il vaut mieux inviter des spécialistes du travail comme Dominique Méda, ou comme d'autres, pour parler de ces sujets-là.
Mais est-ce que justement on en parle du travail aujourd'hui, Dominique Méda, puisque c'est quand même la question qui sous-tend la réforme des retraites?
Absolument. Pas suffisamment, bien sûr. Alors moi, j'ai été invitée quand j'ai écrit mon avant-dernière chronique dans Le Monde. J'ai une chronique mensuelle. Et donc, j'ai écrit une chronique en disant, en gros, que si le gouvernement, le gouvernement aurait dû s'occuper de la question du travail et de la crise, de grave crise du travail qu'on avait en France, avant de faire une réforme des retraites ou avant de faire quelques ajustements que ce soit. Et donc là, j'ai été appelée. En fait, j'ai été appelée à plusieurs reprises par un certain nombre de chaînes, mais dont BFM, l'émission d'Yves Calvi et l'émission d'Aurélie Casse, où les personnes qui... Il y a une division du travail, hein, donc les personnes que vous avez au téléphone vous disent « ça nous intéresse énormément, nous on est hyper intéressés par les conditions de travail et par cette question, venez nous en parler ».
Alors on y reviendra sur ce qui s'est passé sur le plateau, mais pourquoi ça prend pas? Parce qu'il y a effectivement cette invitation de BFM, mais pourquoi globalement les sujets liés au travail qui sous-tendent cette question de la réforme des retraites, ça ne prend pas dans les médias et sur les plateaux télé? Pourquoi?
Vous avez raison, il y a une sous-valorisation des questions sociales d'une manière générale, peut-être parce qu'elles paraissent un peu techniques, ou peut-être parce qu'immédiatement ça va être clivant, on va être mis d'un côté à gauche ou à droite, mais c'est vrai que les questions, je dirais purement économiques, mais ça c'est aussi une affaire, on est en plein consensus de Washington hein, en ce moment, c'est-à-dire, on est encore dans une phase néolibérale où les questions sociales apparaissent très subordonnées aux questions économiques, donc on est là-dedans.
C'est intéressant, c'est sur le procès en gauchisme, vous y êtes victime hein, de ce procès en gauchisme, en engagement politique, on vous l'a rappelé à plusieurs reprises sur les plateaux télé, regardez.
Et très franchement, quand on reçoit sur les plateaux de télévision des gens qui ont appelé à voter Mélenchon, ce qui est le cas de Michael Zemmour, il a appelé à voter Mélenchon. Personne ne l'a dit. Mais il a appelé à voter Mélenchon. Donc, qui en met quand même un économiste.
C'est son droit, hein, par ailleurs.
Non, mais c'est son droit par ailleurs, mais on a le droit de le préciser quand même quand un économiste.
C'est vrai qu'il n'avait pas été présenté comme ça.
Bah oui, on a quand même le droit de le préciser. Donc, qui est d'extrême gauche, on a le droit de le dire. Et c'est son droit.
Ça n'empêche pas que le gouvernement ait menti.
Le gouvernement a menti et vous avez un économiste d'extrême gauche qui a enfoncé une porte ouverte.
Vous êtes d'ailleurs un économiste engagé, je trouve ça important de le préciser, parce que vous ne faites pas que de l'économie, vous vous êtes aussi mêlé de politique. Vous aviez signé en juin dernier un manifeste de soutien au programme économique de la NUPES qui prônait notamment une retraite à 60 ans.
Simplement pour savoir d'où vous parlez, est-ce que vous avez manifesté contre cette réforme des retraites? La réponse est oui.
Oui.
Alors, vous disiez, vous n'êtes pas encore entraîné à sourire en regardant les images. Comment vous l'avez vécu, ça? Parce que c'est clairement une tentative de disqualification, non? Cette manière qu'on a de vous dire d'extrême gauche.
Pas bien, parce que je ne suis pas là pour ça et pas dans cette posture. Comme tout le monde, moi, je pense des choses. Et justement, je m'astreins à parler que de ce dont je peux parler avec méthode. Et donc, pas de mon avis sur tel ou tel sujet. Et donc, j'essaye à chaque fois de ramener le sujet à ça. Et après, moi, je me suis posé la question, par exemple, de signer ces textes au moment des élections.
Mais c'était en avril 2022, ouais. Précisément, ce texte, 160 enseignants et chercheurs en économie, dont vous, qui dites être en faveur du programme économique de Jean-Luc Mélenchon, le programme économique que vous avez d'ailleurs partagé vous-même sur vos propres réseaux sociaux.
J'ai partagé ce texte-là. Oui. Et en fait, une des choses qui m'a décidé, en plus du moment un peu le climax de la présidentielle, etc., c'est le constat qu'à chaque présidentielle, il y a des économistes plutôt de droite d'ailleurs qui prennent parti pour des candidats de leur camp. Et je voulais bien montrer qu'il n'y avait pas de spécificité. Ce n'est pas l'économie qui valide la droite. Il y a des économistes de droite, des économistes de gauche. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison, ce n'est pas moins légitime de s'adresser aux syndicats ou d'être un économiste à gauche qu'à droite. Donc je voulais un peu décomplexer ça, c'est pour ça que je l'ai fait.
Vous partagez cette manière de présenter régulièrement Michaël Zemmour comme étant de gauche, engagé à gauche, ayant manifesté, alors qu'on n'a pas totalement l'habitude de le faire en général.
Moi, je trouve que c'est toujours mieux de dire d'où on parle. Parce que ça n'enlève rien, ça ne gâche rien, et ça permet au téléspectateur ou à l'auditeur de se faire une idée. Après, je remarque qu'on ne demande jamais aux économistes de droite, vous dites, vous êtes de droite, ou pour qui vous avez voté? Je n'ai jamais entendu cette question-là à un économiste de droite.
Je suis totalement d'accord. Moi, ça m'est arrivé aussi. Précisément dans ce discours de BFM TV où je commence à parler de la crise du travail. Et là, donc, il y avait Eric Woerth. Il me dit, ah, c'est ça, le travail, c'est l'enfer. Bah voilà, c'est l'extrême gauche, quoi. Je lui dis, mais attendez, je suis pas d'extrême gauche. Enfin, je vais pas lui dire ce que je suis, mais je suis d'abord une chercheuse. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Et donc, vous pouvez pas dire, ah, bah voilà, ceux qui disent qu'il y a une crise du travail sont d'extrême gauche. C'est complètement fou.
Alors voilà, on y arrive.
C'est un politique, Eric Woerth. C'est pas un journaliste. Donc, il cherche à disqualifier votre parole. C'est pas tout à fait la même chose que si c'est un journaliste.
D'ailleurs, juste une dernière question avant qu'on passe à cette fameuse séquence sur BFM TV. Est-ce que vous accepteriez, par exemple, de faire un débat avec un politique? Je crois que ça, d'ailleurs, l'invitation a dû être lancée à un moment sur un plateau de BFM, à un moment, je crois. Est-ce que vous le feriez, ça?
Un débat, je sais pas, enfin, pourquoi pas. Moi, je suis prêt à discuter avec tout le monde dans tous les cadres. Après, on m'a posé la question si j'étais prêt à débattre avec un ministre. Ça m'est pas venu sur le moment. Je dirais pas non, mais je pense que ce serait plus intéressant de les voir débattre avec les représentants syndicaux. Et pour l'instant, ça n'a pas eu lieu sur les plateaux. Et ça serait intéressant. Parce que là, ils défendent des options. Moi, je suis dans le cadre de l'analyse. Donc, effectivement, quand vous avez un ministre qui dit des choses pas correctes sur la réforme, là, j'ai mon rôle en disant, ben non, ça, c'est pas vrai. Mais après, sur les options à choisir, ce serait plus intéressant de voir un débat avec les dirigeants syndicaux.
Alors justement, Dominique Ménat, vous disiez sur ce fameux plateau BFM TV où vous avez été invité, eh bien vous avez décidé finalement de ne plus y retourner. C'est en tout cas le sens de votre tweet qui date du 6 mars 2023. Écrit précisément à 22h52, vous écrivez, je vous cite, « Je boycotte définitivement BFM TV, vous invite et vous annule au moindre lever de poils de palmade, n'aime que le sang et le spectacle, Mathieu Croissant, vous rigolez, traite les femmes et les chercheurs comme des potiches, plus mansplaining, et d'ailleurs, vous taguez Michaël Zemmour, votre collègue, à vos côtés. On va regarder justement à quoi ça ressemble.
Les régimes spéciaux, ils reconnaissent et la pénibilité, les carrières longues, des choses aujourd'hui qu'on entend dans le débat autour d'ailleurs de la réforme des retraites.
Sur ce point, vous n'avez pas les Français de votre côté.
Parce
qu'une majorité de Français sont pour la suppression.
Oui, mais parce qu'on ne dit pas la vérité. Vous savez, j'ai entendu sur ce plateau...
C'est un problème de vérité, vous pensez vraiment?
Oui, tout à fait. J'ai entendu sur ce plateau...
Vous qui ne dites pas la vérité. Vous n'avez jamais pensé à ça.
J'ai entendu sur ce plateau...
Vous n'avez jamais réfléchi à ça.
La baisse des charges d'électricité dans les centrales.
Tout à fait.
Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence particulière.
Mais pour les usagers en France, il n'y a pas d'incidence.
Okay.
Ça agit sur les échanges commerciaux.
On achète.
Et notamment aujourd'hui, il faut acheter
de l'énergie. On achète de l'énergie plus cher que notre propre coût de production.
Bah oui.
Enfin, c'est scandaleux.
Ah bah oui, c'est comme scandaleux.
C'est une manière, c'est scandaleux. Au moins,
c'est scandaleux
au moins,
ce que vous avez fait à l'époque quand vous étiez au gouvernement, vous aussi, quand vous avez ouvert le capital de GDF et que vous avez détruit les entreprises de services publics.
Au-delà de la baisse.
Enfin, en termes de leçons, je veux bien les prendre, mais enfin, regardez balayer devant votre porte quand même.
Cher monsieur, je pense que la CGT est assez responsable de pas mal de destructions d'entreprises. Ouais. Mais vous voulez mettre à bas, vous voulez tuer le système de répartition.
Je voudrais quand même donner la parole à celle qui est entre vous deux, s'il vous plaît.
Quatre fois par BFM, on m'a quatre fois annulée pour parler des conditions de travail. Et je m'aperçois qu'on ne peut encore pas en parler, ça me semble complètement sidérant.
Mais regardez, voilà, on va en parler.
C'est super,
il nous reste encore un quart d'heure.
Évidemment qu'on peut parler des conditions de travail, madame.
En l'occurrence, je voudrais qu'on parle de ce dialogue de sourds, là. Vous en pensez quoi, vous?
Moi,
je dis c'est un dialogue de sourds.
Non, c'est un dialogue, madame.
Oui, alors, en tout cas, on ne mettra pas d'accord, c'est ça que je veux dire. Alors moi, j'ai vu cette scène en direct. J'étais en train de regarder BFM TV et du coup, j'avais mon cerveau qui était dissocié parce que je regardais ce match de boxe entre Eric Woerth et, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom de famille. Merci beaucoup. Et puis, il y a cette scène. Et puis, il y a la scène où vous êtes, vous, au milieu, en sandwich. Et on vous regarde et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis ça.
Alors, je me suis dit, ou bien je pars. Je pars, mais je me suis dit que c'était quand même pas poli. Ou bien je hurle. Et donc, ça veut dire que j'étais pendant 25 minutes potiche, puis ensuite hystérique, les positions classiques des femmes, quoi. Donc, c'était bien, bien, bien ennuyeux.
Alors, vous avez ressenti quoi, là, précisément, à ce moment-là?
Ah, mais j'étais exaspérée. Non, mais d'autant que tout l'arrière-fond, c'est quand, en effet, on m'a appelée 3 ou 4 fois de chez Yves Calvi et 3 ou 4 fois de l'émission qui suit 90 minutes de chez Aurélie Cass, et chaque fois avec des personnes délicieuses me disant « Il faut qu'on parle, on est hyper intéressés par vos questions, il faut qu'on parle des conditions de travail, c'est très, très, très important. »
Ça, c'est les programmatrices au téléphone.
Mais oui, c'est la division du travail. Et donc, là, on m'invite, j'envoie bien, chaque fois, j'envoie mes petits documents pour qu'on sache de quoi je veux parler, et en fait, je pense que Alice Darfeuil...
C'est ça, c'est Alice Darfeuil, la présentatrice qui est aux manettes ce soir-là.
Ne savait même pas ni qui j'étais, ni ce dont je voulais parler. Et donc, en effet, je suis là pourquoi ? Je suis là parce que je suis une femme. D'ailleurs, je suis placée entre les deux hommes. Et puis, on se dit que je vais peut-être dire à un moment, la sociologue de service, un truc intéressant. Voilà. Et donc... je pense, j'aurais dû être mal poli en fait, c'est-à-dire j'aurais dû intervenir bien avant pour raconter mes affaires. Donc là j'ai 4 minutes pendant lesquelles j'arrive quand même à glisser un peu mon sujet qui me semble le plus important de tout ça. Hein.
Oui, parce qu'il s'est passé vraiment de longues minutes avant que vous enfin preniez la parole.
25 minutes.
Voilà, c'est ça, 25
minutes. Donc on avait une demi-heure, je le savais très bien, hein, et il y a d'abord à nouveau 10 minutes sur Palmade. Donc j'avais été annulée 3 fois pour Palmade, hein, et une fois pour Zelensky.
Alors moi j'ai une question toute simple, pourquoi vous y allez ?
Ah ben je suis vrai. Ben je...
Non mais pourquoi vous y êtes allé ce jour-là alors que vous aviez déjà été des invités, alors que vous connaissez l'économie aussi de ce genre de plateau ?
Parce que la programmatrice qui accompagne Aurélie Cass, qui n'était pas là ce jour-là, il y avait eu un changement d'équipe, m'avait dit, un, qu'on serait tous les deux avec Mickaël, c'est pour ça que je tague Mickaël dans l'affaire, donc on serait tous les deux. Personne ne m'a dit que Mickaël ne serait pas là et qu'on parlerait enfin, voilà, qu'on allait avoir un gros bloc de temps, puisque c'était avant la manifestation, consacré à cette question de la crise du travail.
Et vous ne lui avez pas dit que vous n'étiez pas là.
Ah voilà. Non mais c'est quand même très très intéressant. C'est-à-dire, voilà une question absolument centrale. Hein.
Le travail, donc ?
Mais le travail, le fait que toute une série de gens ne peuvent plus actuellement tenir au travail, vont encore moins pouvoir tenir. Donc, comme on le sait tous, hein, qu'ils vont devoir être au chômage, dans les minima sociaux, en invalidité, tout ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment une augmentation catastrophique de la misère, quoi, je dirais. Et personne n'en parle. Je veux dire, la question de la pénibilité, elle devrait être au centre. On aurait dû déjà, le gouvernement aurait dû faire un geste et s'occuper de cette question-là. Et l'autre jour, c'est ce soir, il y avait Laurent Berger. Moi, je vais quelquefois dans cette très bonne émission, c'est ce soir, parce que là, on a un peu le temps de parler. Et Laurent Berger disait, en effet, bah, si vous humiliez à ce point le monde du travail, il ne reviendra pas discuter après avec vous. Voilà, donc on se trouve à nouveau dans une gigantesque impasse.
Est-ce que vous comprenez la décision de Dominique Méda de ne plus aller sur BFM TV ?
Je la respecte, mais je l'invite à revenir, parce qu'on a besoin de ses lumières sur les plateaux de BFM TV. Alors, c'est toujours difficile d'exister sur un plateau quand vous avez des invités, en plus quand ils sont véhéments, et en plus quand voilà, on a l'impression d'être au milieu d'un duel. Oui, c'est pas, c'était le cas ce soir-là, mais il y a aussi, très souvent des femmes invitées autour du
plateau. Mais en termes de symbolique, franchement, c'est...
Mais c'est vrai. Alors après, dans ces tranches-là, on aborde généralement plusieurs sujets dans un ordre qui peut être bousculé en fonction de l'actualité. Moi, je ne sais pas ce qui était prévu ce soir-là, ni l'ordre exact. L'essentiel, c'est que vous ayez quand même pu en parler et en placer une, si j'ose dire, même si ça a été tardif selon vous et même si c'était trop restreint. Mais je pense qu'il ne faut jamais manquer une occasion qu'on a d'expliquer au plus grand nombre ce à quoi on croit. Et donc, en ce sens-là, oui. BFM TV offre aussi ces formats-là, peut-être pas le soir où vous y avez été, oui. Mais je veux dire, pouvoir s'adresser à des gens qui ne pensent pas forcément comme vous, mais faire passer un message, faire passer de la pédagogie,
ça va être
faire passer
ma dernière question, effectivement.
Je pense que c'est toujours important Michael de pouvoir
Zemmour
y aller.
Et Dominique Méda, est-ce qu'il faut y aller, quel que soit le prix?
Non, mais moi, j'ai envie de dire autre chose, pardon. Hein. Mais ça nous fait nous poser des questions. Je veux dire, principalement à nous, les femmes, qui sommes sans doute plus respectueuses, on est bien élevées, on attend, on n'aime pas couper la parole, etc. Est-ce qu'on doit devenir des guerrières? Est-ce qu'on doit devenir des lutteuses? C'est-à-dire, est-ce que là, dès qu'Éric Woerth a pris la parole et a dit des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, est-ce que j'aurais dû laisser la présentatrice, l'animatrice, la journaliste de côté et sauter sur la parole, la prendre et... mettre, comme on dit dans les émissions,
une couille sur la table. Moi, j'aurais envie de dire oui, pardon.
Voilà,
sans aller jusqu'à cette expression-là, je pense que quand le temps est compté, eh bien, il faut savoir s'imposer.
Dans ces émissions-là,
le temps est compté et il faut savoir.
Donc on y va. Il faut être des guerrières. Mais et donc il faut. Il faut qu'on apprenne à être des guerrières.
Il faut être affirmé. Il faut savoir s'affirmer. Là, vous avez face à un politique et un syndicaliste qui étaient dans une bataille.
Vous avez trois personnes la journaliste ne vous donne pas la parole. Elle ne vous regarde même pas. Et il y a deux personnes à qui on donne la parole plus tous les reportages qui viennent. Qu'est-ce que vous faites?
Ah, vous pouvez toujours faire signe quand même à la présentatrice.
Ah non, mais sur signe, ça ne marche pas du tout.
Moi, je pense qu'il faut faire
ça. Sinon, il faut savoir s'imposer.
Mais alors, peut-être un conseil, et ça rejoint ce que disait Michael Zemmour tout à l'heure, et ça sera le mot de la fin, avec le sourire, évidemment. Puisque si vous le faites sans le sourire, bah, vous passez pour, évidemment, vous disiez, la femme hystérique. Merci à vous trois d'être venus avec nous pour décrypter ce traitement médiatique de la réforme des retraites, notamment sur les chaînes d'info. C'est la fin de notre émission. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt sur image. Thank you.